Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h06, vous écoutez RMC, les grandes gueules du sport en direct jusqu'à midi. Pascal Duprat, Fred Weiss, Marion Bartoli, Christophe Cessieux, ce matin, ils sont en grande forme hein, depuis 9h. Et ils sont à retrouver aussi tous les jours en podcast. Vous le savez d'ailleurs, ils étaient en grande forme sur le débat autour des droits télé. À retrouver en podcast dès maintenant, on en a parlé à 9h. Pensez à vous abonner aussi pour ne rien rater du podcast. Dans une heure, le 15 de France au menu avec la défaite face à l'Angleterre. Et avant de lancer la préparation de la suite du tournoi, les Bleus, on a senti qu'ils étaient un peu épargnés. Est-ce qu'on est trop gentil avec le 15 de France? Ce sera à 11h. Et puis dans 30 minutes, la punchline GG signée Victor Wembanyama qui s'apprête à découvrir le All-Star Game dimanche prochain. Un All-Star, nouvelle formule, on vous explique tout et on se pose la question.
Enfin, du basket.
Est-ce que c'est encore du sport? Ouais. 32-16.
Je sais qu'il est gentil. Rejoindre. C'est Fred. Fred, il est gentil avec tout le monde. Jamais il attaque. Il est trop.
Je suis toujours
trop
calme,
sympa.
Moi.
Ouais, non, c'est trop.
Allez,
sympa.
Ça sera dans 30 minutes.
Il faudra un peu te montrer plus hargneux quand même.
Mais d'abord, c'est le bras de fer des GG.
RMC. Le bras de fer GG.
Salut, c'est Didier Deschamps. Ça y est, j'ai choisi ma nouvelle équipe. J'ai pris la meilleure, c'est RMC.
La reconversion professionnelle peut concerner tout le monde.
Comme vous le savez maintenant, j'entraîne deux équipes de foot. La Juventus de Turin et la Dream d'RMC.
Quelle que soit votre situation, votre expérience ou votre niveau d'études.
On est efficace.
Cela consiste à changer de métier.
Voilà, le programme.
Ou de statut professionnel.
Hein?
France Travail, l'émission locale, l'APEC.
C'est quoi ça? C'est un coiffeur? Ah pardon, je croyais que c'était un coiffeur.
Je ne veux pas travailler.
Il faut qu'il revienne à RMC, à Didier Deschamps, hein, sinon on ne trouve pas de club. Hein.
Petite pépite,
franchement, c'est magnifique pour les jingles d'Alban, là, c'est parfait. Didier Deschamps qui a annoncé hier chez nos confrères de l'équipe qu'il ne prendra pas sa retraite après avoir quitté les Bleus. Il a prévu d'arrêter son rôle de sélectionneur après la Coupe du Monde de 2026. Il explique que c'est une date qu'il avait arrêtée depuis longtemps. Il n'a pas voulu dire exactement ce qu'il allait faire après, mais il donne quand même quelques pistes dans cette interview. Il écarte des pistes. Je ne me vois pas être sélectionneur d'une autre équipe nationale. On lui parle d'une carrière de dirigeant à la FFF, il dit « Je n'ai pas d'ambition politique, donc reste s'il veut rester dans le football. Reprendre un club pour celui qui a déjà coaché Monaco, la Juve et l'OM. » Alors, 14 ans après, est-ce que Didier Deschamps fera forcément un bon entraîneur? Dans le coin droit, la team, oui, composée de Pascal Duprat, Christophe Cessieux et Marion Bartoli.
Ah oui, d'accord.
Seul face à la meute, dans le coin gauche.
Il adore
ça.
Il entre dans le rôle de la
sourit
bête
d'avance.
Traquée, tu sais.
La team non composée de Fred Weiss.
Oui.
Espèce de gros ours acculé dans sa grotte qui va devoir se défendre avec les loups qui tombent.
Juste avant de vous écouter, oui, le sondage. Le sondage sur le compte X des grandes gueules du sport nous donne pour l'instant la team non. Didier Deschamps ne fera pas forcément un bon entraîneur, ouais, 14 ans après.
Les renards en plus contre toi.
Non, la team non en tête.
Ah ouais,
55% non, 45% de oui.
À l'époque où Marseille était champion de France, quoi, c'est ça.
Et donc c'est Marion qui va essayer de rattraper donc le retard et tu vas commencer. Oui, pour toi, il fera forcément un bon entraîneur.
Alors tu l'as dit, il a déjà entraîné trois fois en club avec l'AS Monaco, la Juve. Lorsque la Juve était redescendue en D2 pour tous les problèmes qu'ils avaient eus, il avait ramené cette équipe en D1. Et puis bien évidemment avec l'OM, il a quand même réalisé le doublé Coupe Championnat en 2010. Trois fois gagné la Coupe de la Ligue, deux trophées des champions. Deuxième de Ligue 1 aussi en 2011. Il n'a pas qu'entraîné qu'en sélection. Alors Didier, effectivement, dans la mémoire collective actuelle, c'est qu'un entraîneur de l'équipe de France. Mais il a entraîné de très très nombreuses années en club, plus de 10 ans. Et je vous rappelle quand même qu'il a ramené l'AS Monaco en finale Ligue des Champions en 2004 en battant le Real Madrid de Zinedine Zidane et des Galactiques en demi-finale. Donc c'est un entraîneur qui a une immense expérience en club, qui a bien sûr aussi une immense expérience en sélection, et on sait très bien que d'entraîner en sélection et d'entraîner en club, c'est deux travaux différents, c'est deux jobs différents, parce qu'en sélection vous avez les joueurs beaucoup plus rarement dans des rassemblements puis ensuite sur des compétitions, alors qu'en club c'est au quotidien. Mais il a cette capacité à gérer les égos, il a cette capacité à créer une cohésion de groupe, et il a énormément d'expérience, comme je l'ai rappelé. Donc il a joué lui-même dans les plus grands clubs, il a lui-même en tant que joueur un immense palmarès, mais il a aussi un immense palmarès en tant qu'entraîneur de club et pas uniquement en tant qu'entraîneur de sélection. Et puis bien évidemment, ce que recherchent aussi les présidents de club lorsqu'ils sélectionnent un entraîneur pour leur équipe, c'est d'avoir cet esprit de la gagne. Et on sait bien évidemment, et Pascal je pense le dira encore mieux que moi, que Didier Deschamps est totalement synonyme de l'esprit de la gagne. Donc pour toutes ces raisons, oui bien sûr, je pense que Didier Deschamps va réussir avec quasiment n'importe quel club.
Fred.
Oui, j'adore parce qu'elle m'a donné tellement d'arguments pour en ma faveur. C'est vraiment merci beaucoup Marion d'être de mon côté et de ne pas l'afficher.
On est très curieux de t'entendre.
De ne pas l'afficher devant tout le monde.
Je t'écoute. En fonction de ce que j'ai dit, là, je t'écoute.
Elle l'a dit elle-même. C'est deux métiers complètement différents. Ça n'a rien à voir. Quand t'es sélectionneur, tu dois tirer la quintessence de tes joueurs à l'instant T. Tu dois.
Quand t'es
entraîneur, t'as une gestion au jour le jour. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument aucun rapport.
Il a fait les deux.
Alors, si vous voulez jouer à celui qui parle le plus, vous pouvez parler tous les trois en même temps. Et effectivement, je n'aurai pas le temps d'en placer une. Mais sinon, je vous expliquerai que simplement qu'il y a 14 ans, la société a beaucoup évolué. Les joueurs de foot ont beaucoup évolué. Et effectivement, c'est un très bon entraîneur. Et je ne suis pas en train de dire le contraire. Et si je devais miser maintenant, je dirais oui, il sera un bon entraîneur. Sauf qu'il n'y a aucune certitude par rapport à ça. Parce que 14 ans de pause en faisant un autre métier, c'est beaucoup, c'est long.
Le foot a changé.
Mais non, c'est pas le même métier.
Non, mais c'est du foot.
T'as été sélectionneur pour quelle équipe, Pascal?
T'as été sélectionneur de quelle équipe de foot?
Non, mais c'est pour ça que les sélectionneurs, par exemple, dans le basket, restent au contact du basket de club pour pouvoir après enchaîner et réintégrer.
C'est ce que fait Didier. Tu sais le nombre de matchs auxquels il va assister dans les clubs.
C'est ce que fait Didier.
Tu sais le nombre de week-ends. Mais tu dis que des bêtises, on est obligé de te couper. Pas te laisser débiter 5 minutes de bêtises consécutives quand même.
Et j'en commande plein. Et j'ai pas pour autant la prétention de pouvoir entraîner. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est différent de se dépasser dans un club pour voir des joueurs et travailler dans un club au jour le jour, au quotidien, avec les exigences que ça demande. Tout le monde sera d'accord quand même sur le fait que sélectionneur et entraîneur, c'est pas du tout le même métier. On fait autre chose. On le fait sur un temps plus court.
Ça reste quand même le même cœur de métier.
Mais encore une fois, je suis en train de vous dire. Je pense que si je devais miser, je miserais effectivement sur Didier Deschamps comme bon entraîneur. Mais il n'y a pas de certitude par rapport à ça.
C'est pas forcément
vrai. De l'avoir été,
mais il y a 14 ans, tu crois que ça n'a pas changé un petit peu? Tu crois qu'il n'a pas pris d'autres automatismes?
Parce que tu crois qu'il a compté les fleurs, il est allé se baigner dans la.
Non, mais je pense qu'il a
rien fait.
Il est resté dans une équipe le jour le jour.
Il est resté dans le milieu.
Oui, mais il a continué à regarder du foot.
Laisse répondre Christophe. Mais après, on entendra Pascal qui a été entraîneur.
S'il était parti sur la Lune pendant 14 ans, mais il est resté au quotidien avec le foot. Il a continué à les superviser tous les joueurs.
Mais superviser, c'est pas gérer des égos tous les jours.
Il a continué à s'entourer des meilleurs préparateurs physiques, des meilleurs tacticiens pour entourer l'équipe de France. Comment tu peux dire que ça fait pas un bon entraîneur, quand même?
Les joueurs qu'il a quand il est en équipe de France, Didier Deschamps, il les choisit, on est d'accord. Quand tu es en club, quand il y a des blessés, tu es obligé de faire redescendre la liste. Tu ne choisis pas forcément tous les joueurs avec qui tu vas travailler. Mais si tu crois que Luis Enrique ne choisit pas ses joueurs, et De Zerbi ne choisit pas ses joueurs, la seule limite à Deschamps,
il faudra lui laisser tous les pouvoirs. C'est que, effectivement, pendant 14 ans, il a eu le cul dans la soie, comme on dit. C'est-à-dire que, il habitait sur la Côte d'Azur, il allait 3-4 fois par an, il se mettre les mains dans le cambouis, la pression, il la prenait finalement que 3-4 fois par an, et puis il allait pendant ce temps-là aller voir les joueurs. Est-ce qu'il va avoir envie, après avoir tout gagné, avoir été super entraîneur, super sélectionneur, est-ce qu'il va avoir envie encore de reprendre la pression au quotidien? Moi, c'est la seule
et
limite.
Et l'énergie, est-ce qu'il aura l'énergie de faire ça au quotidien?
L'énergie et la volonté, parce que Pascal va pas me contredire, mais entraîneur de club, c'est quand même une pression au quotidien, bien sûr. S'il se lance dans le défi,
il le prendra.
Mais comment il va le supporter, c'est la seule interrogation.
Je vais envoyer juste deux remarques. La première, je te remercie Fred pour le tacle à la gorge que tu m'as envoyé.
Malheureusement, je n'ai jamais été sélectionneur,
mais tu me donnes ta remarque me donne tellement envie d'y être. Donc peut-être qu'un jour, j'y serai pour combler.
J'adorerais que tu sois sélectionneur, que je suis sûr que tu serais parfait.
Mais tu
la seule remarque que j'aimerais faire, parce que oui, sélectionneur, j'aimerais, oui, vraiment. Ce que j'aimerais faire comme remarque au sujet de tout ce qui a été dit et bien dit, quels que soient les avis des uns et des autres, il y a quelque chose avec Didier Deschamps qui met tout le monde d'accord, c'est que Didier Deschamps, c'est un gagnant. Il gagne en club, exactement, il gagne en sélection. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, si Didier Deschamps veut prendre un club, une fois qu'il en aura terminé avec l'équipe de France, il aura le choix entre les plus grands clubs. Donc, il continuera à gagner, tout simplement, parce qu'il est fait pour ça, que ce soit en sélection ou que ce soit en club. Et comme l'a très bien dit Marion, à partir du moment où il va s'atteler à la tâche, il va s'atteler à 200%. Là où, encore une fois, il me stupéfait, c'est que hier dans l'équipe, eh ben, il a envoyé un petit pavé dans la mare de Ah oui, de.
Moi je
il est trop fort, Didier Deschamps.
La langue de bois en or, hein, une nouvelle fois.
Pourquoi la langue de bois toutes les semaines. Je crois que c'est facile à gérer une langue de bois toutes les semaines, où les mecs interrogent toutes les semaines, où t'as la pression tout le temps. Moi, je suis pas sûr. Et justement, la question que j'allais poser à Pascal. Est-ce que de ce fait, si tu penses que Deschamps serait un excellent, redeviendrait un excellent entraîneur, est-ce que Zidane deviendrait un bon sélectionneur?
Juste avant, j'aimerais que Pascal, juste avant qu'il te réponde, Pascal, développe un peu. Qu'est-ce que tu vois comme pavé dans la mare sur Zidane, là, dans l'interview?
Bah en fait il a adoubé, en fait Deschamps il a toujours un coup d'avance, il a adoubé alors que tout le monde disait qu'il y avait un peu de friture sur la ligne entre les deux, donc certainement des conneries, hein, tout simplement. Donc Deschamps, bah, il a adoubé Zizou.
Mais il n'est pas obligé un petit peu, Pascal.
Il décide quand il arrête.
Il n'était pas un peu obligé de l'adouber. Il pouvait pas tirer dessus, en fait.
Mais il pouvait faire l'économie, ne rien dire. C'est pas son sujet.
Ouais,
c'est
mais t'as vu les
questions qui ont
été posées. Il a répondu aux questions. Il a répondu aux questions. Non, oui, Deschamps va faire un très bon sélectionneur.
Entraîneur.
Zizou va faire un très bon sélectionneur et Deschamps est un très bon entraîneur, tout simplement, parce que encore une fois, il est très bon et encore une fois, c'est peut-être le Real de Madrid qui va entraîner.
Alors, vous le voyez entraîner où? Vous le voyez entraîner où? Est-ce qu'il va entraîner un grand club et donc se mettre une énorme pression? Est-ce qu'il a encore envie de le faire? Ou est-ce qu'il va aller prendre les thunes dans le golf ou aux États-Unis?
Mais non, il sera sur un grand club.
Je pose la
question. C'est un homme de défi, Deschamps.
Qui est obligé de lui donner un grand club, parce que le niveau qu'il veut afficher, le niveau d'exigence qu'il a, c'est obligatoirement un grand club. Et c'est pour ça que ça m'inquiète un petit peu par rapport à ça. Parce qu'encore une fois, c'est une pression quotidienne, c'est une gestion au quotidien, et t'es pas le seul décideur, et c'est difficile de changer de posture.
Je me disais, il sera postulant pour Manchester City, si ça se trouve.
Ouais.
Parce que Guardiola, à un moment donné, ça fera trop longtemps qu'il est là, quelle que soit la qualité de l'entraîneur.
Le football italien, le football anglais.
Ça peut être Manchester United, ça peut être la Juve.
C'est un vrai problème aussi. Hein. Alors, Lost in Translation, ça va vite.
Mais juste quand même pour par rapport à ce que vous dites, c'est pas si simple après avoir été un sélectionneur et notamment un grand sélectionneur de reprendre un club. Il y a plein de contre-exemples justement de grands sélectionneurs qui n'ont pas réussi après à rebondir dans les clubs. Il y a Joachim Löw,
l'Allemand qui peut être comparé à Deschamps, justement, qui est resté 15 ans avec l'équipe d'Allemagne et qui a préféré arrêter parce que c'était.
Ça avait été un bon entraîneur avant.
Ça avait été.
Non, c'est vrai, c'était pas spécialement un grand entraîneur. J'ai pas fini ma liste. Que si on prend également Marcelo Lippi, après avoir gagné avec l'Italie, il est allé en Chine, entraîné en Chine. Il n'a pas entraîné.
En Chine.
Il est allé entraîner en Chine. C'est ça que je veux dire. Il n'a pas récupéré un grand club. Et pourtant, il avait des références de sélectionneur. Et après, en équipe de France, ça se compte sur les doigts d'une main. Les entraîneurs d'équipe de France qui ont réussi à rebondir ensuite dans un club et faire des grandes choses. Il y a Gérard Rouillet, mais qui n'avait pas réussi une grande carrière en équipe de France. Laurent Blanc, qui effectivement a rebondi ensuite au PSG. Si on cite Raymond Domenech, on se souvient de son passage à Nantes.
Malheureusement, ça a arrêté rapidement pour Laurent Blanc, quand même.
Domenech, il n'a même pas réussi l'équipe de France.
Pas le même âge aussi. Il n'avait pas le même âge quand il va à Nantes.
Chacun, bien sûr, est indépendant, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas forcément une certitude de réussir ensuite.
Non, mais vous oubliez les années d'entraîneur de club de Didier.
C'est parce qu'il y a 4 ans qui sont passés.
Comme l'a dit Pascal, il n'était pas en train de gérer des joueurs de basket quand même.
De Marseille à Champion. Et ça, c'est quand même un truc incroyable. Je ne sais pas s'il trouvera un jour un successeur.
Attends, il a fait doubler en plus. En plus, il a fait doubler Coupe Championnat.
Le truc, c'est qu'on parle de Didier Deschamps. Tout simplement, l'entraîneur le plus titré
fan.
En France.
Il est tellement
mais non, mais
fan,
qu'est-ce que tu veux que je te dise?
C'est la réalité, Christophe. C'est la réalité.
Est-ce que tu as fait sa soirée de Saint-Valentin avec Dédé, Pascal?
Mais non, mais...
Tu lui as envoyé des roses rouges ou non?
Pourquoi tu dis ça? Je le dis parce que je peux pas.
Mais parce que tu
n'attends rien, j'ai pas d'intérêt.
C'est tellement en admiration.
Mais parce qu'il gagne, mon pauvre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il se fait défoncer par tout le monde, mais il gagne tout le temps.
Si c'est pas
il va gagner la prochaine Coupe du Monde et va vous faire un petit pied de nez. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et derrière, il va aller au Real, il va gagner.
Non, à ce niveau-là, je trouve ça très bon.
Stop. Frédéric est avec nous au 32-16. Un autre Frédéric. On va voir s'il va venir à ton soutien. Et j'aimerais voilà, que tu mettes un peu d'ordre parce qu'ils sont très dissipés sur ce débat autour de Didier Deschamps. Salut Frédéric.
Salut tout le monde. Bah, c'est normal, Dédé, ça.
Ça divise.
Ça fait causer.
Eh oui. Quel est ton point de vue alors?
Évidemment qu'il va réussir dans le prochain club dans lequel il va aller. Ce type, il a réussi tout ce qu'il a touché, il en a fait de l'or.
Ah oui.
C'est le seul, le dernier à avoir gagné des titres à Marseille, c'est lui. Il commence, il reprend la Juve, il les fait monter en Ligue 1.
Moins 17 derrière, points.
Derrière, il reprend Monaco, il va en finale de la Champions League, et puis après, il va à Marseille. Et il gagne la Coupe de la Ligue et puis peut-être le championnat, je ne me souviens plus.
Coupe de la Ligue trois fois
à Marseille.
Voilà. Donc, bon, il finit par partir parce que politiquement parlant, à Marseille, c'était un
peu chaud. Il n'existe plus la Coupe, surtout.
Voilà. Et puis, mais Dédé, c'est un mec à part. On peut le comparer à personne.
Oui.
Enfin, aujourd'hui, on peut le comparer à personne.
Mais je suis d'accord, on est tous d'accord pour dire ça, Frédéric.
Ah non, non, mais Frédéric, tu as un joli prénom, mais je pense que tu trompes, parce qu'on dit tous pareil.
Non, mais
on dit tous à peu près pareil.
Non, mais non, vous avez dit non.
Mais oui, non, je dis non, parce que non, je dis qu'il n'y a pas de certitude. J'ai dit qu'il n'y a pas de certitude.
T'as dit non, t'as dit
pas sur la sémantique.
Mais non, mais la sémantique est importante. C'était bien que
t'as dit non, Fred.
Donc j'ai dit qu'il avait plein de qualités et que si je devais parier, je parierais sur le fait qu'il réussisse. Sauf que si c'était aussi simple, n'importe qui arriverait, mettrait, je sais pas combien d'argent sur la table et il serait sûr d'avoir le titre de champion. C'est pas aussi simple que ça, c'est ça que j'essaie d'expliquer.
Alors, les amis, bravo Frédéric pour ton passage. Frédéric, oui, celui qui est avec nous au 32-16. Juste avant le résultat du sondage, Marie Lamure en direct, la Française qui va partir pour le slalom. Première manche à Salbar, les championnats du monde, Léna Marjac avec Bastoun.
Il y a Bastoun, elle est là.
on espère qu'elle va venir cette première médaille. Pour l'instant, ça va être compliqué pour Marie Lamure parce qu'il y a eu une petite photo au début, 7/10 déjà de retard Bastoun pour sur le haut de ce slalom pour Marie Lamure, la skieuse de Courchevel.
Pas très à l'aise sur sa mise en action, hein. On l'a vu subir, perdre beaucoup d'appui. La piste a beaucoup évolué aussi, hein. Sur le haut, ça marque un petit peu, il y a un fond dur, mais il y a une trace qui s'est deux petits rails qui se sont formés. Il faut ce qui est juste et Marie, elle est un peu contre-temps. Maintenant, il faut essayer de retrouver ce qu'elle est capable de faire, hein. Elle nous l'a montré sur certaines pistes cette année où elle était capable de jouer. Effectivement, elle rallume un peu de vert là sur le bas du parcours, mais le mal est déjà fait.
Oui, ça chiffre énormément quand même. 2:49 de retard pour Marie Lannemure maintenant face à celle qui est la leader pour l'instant de cette première manche du slalom. C'est Camille Rast, la Suissesse. Et on va voir Marie Lamure arriver, passer la ligne d'arrivée avec 3 secondes de retard. Elle est donc 13e provisoire. Voilà, la première Française à s'être élancée dans cette première manche du slalom. On en aura deux autres. Ce sera Clara Pogno et Marion Chevrier. Et un petit mot quand même, Bastoun, une petite pensée pour Clarisse Brèche parce que cette équipe de France est touchée depuis le début de la saison par des blessures. Et encore cette semaine, Clarisse Brèche qui devait prendre le départ aujourd'hui, eh bien, rupture du ligament croisé du genou.
Ah, merde.
Du genou droit, c'était lors du géant. Et Bastoun,
Diego Erekioni qui aurait dû participer au géant hier, qui s'est fracturé aussi une cheville. Donc ouais, c'est lourd à porter dans une équipe aussi quand il y a des blessures sur des grands événements. On est zéro médaille, mais on va peut-être appeler Dédé, ce sera peut-être l'homme de la situation.
Attends, n'y avait pas pensé ça, entraîneur de skieur.
Mais tout ce qui touche, c'est de l'or. Pourquoi
juste
pas
un petit mot pour les acteurs de Dédé. Pourquoi toujours casser quand ça marche avec les noms
français? Voilà Fred, ça c'est pour toi ça.
Ah, voilà.
Ça c'est
une réussite. Alors, quand il y a une réussite en France,
Fred.
Une réussite dans le sport, voilà. Une réussite dans le business et tout. On est les premiers à sabrer. Non, on a un mec qui fait gagner l'équipe de France de foot. Et il a fait gagner l'équipe de foot.
Je ne critiquerai pas le ski vu que vous ne réussissez pas.
demain, tu pourras, on te réinvite, Fred.
On reparlera du ski d'ailleurs face au biathlon dans l'émission dans un instant dans les grandes gueules du sport. Merci Bastoun, merci Léna.
En tout cas, demain, il y en a un qui va avoir la pression. Hein. C'est papa Amier parce que la médaille française, elle va venir du fiston.
Ah, bah,
donc peut-être
l'espère.
Que ce soir, il va se bouffer les ongles et il va avoir
la pression. Et ça sera suivi sur RMC, bien sûr. Ah, vous l'avez entendu, ce débat, évidemment, ça fait encore débattre d'ailleurs sur l'appli RMC Direct Studio. N'hésitez pas, il y a Mickaël qui nous dit Deschamps représente l'ancien football, il ne retrouvera pas de grand club. Il y a David qui nous dit Didier Deschamps n'a pas peur de l'échec, c'est un homme de défi. Vous voyez, vous débattez toujours. Le résultat du sondage, le bras de fer des GG, 14 ans après, Didier Deschamps fera-t-il forcément un bon entraîneur? Eh bien, c'est une victoire de Fred Weiss, puisque le non est toujours en tête, 55% contre 45%.
Mais ça n'a pas bougé, en fait.
Bah oui, ça n'a pas bougé, vous n'avez pas réussi à convaincre.
Et donc, total, c'est 55.
Voilà.
3 contre 1, c'est pas mal, je trouve.
Les Louveteaux, c'était un sacré débat. Franchement, il y a vraiment du suspense. Non, mais franchement, cette question, je sais pas où c'est que vous êtes allé la trouver. Ouais. On en reparle dans 2-3 ans. Ah, oui. Premier club qui prend, il va tout gagner.
J'espère que tu parles pareil à Jean-Christophe Drouet, Pascal. Hein.
J'espère. C'est pire même. Je parle pire.
Allez, on revient dans un instant, les GG, avec la punchline de Victor Wembanyama. Tiens, un sujet pour Fred Weiss. Enfin, le Français qui va disputer son premier All-Star Game et il prend ça très au sérieux, vous allez l'entendre. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Mais vous en êtes sûr alors ? Pourquoi faire un débat ?
Les grandes gueules du sport.
Eh bien moi je suis triste ce matin parce que la série de Netflix.
Tu peux nous redire Netflix s'il te plaît Christophe ?
La série de Netflix.
Laisse-moi finir justement Christophe.
Allez mon Christophe,
reconnais bien là ton envie.
François Pinet.
Et elles sont en grande forme les grandes gueules du sport ce matin. Fred Weiss, Mario Bartoli, Pascal Dufraz. Dupraz, moi aussi, je vais avoir droit à mon jingle. Et Christophe Cessieux.
Dupraz.
Tu peux nous redire alors Netflix.
Arrête. Netflix.
Ah ouais, non, t'y arrives pas. Hein. Dans un instant, les grandes gueules contre-attaquent. Elles vous ont proposé un débat sur le compte X des grandes gueules du sport. Et pour l'instant, alors c'est très, très serré. Hein. Donc vraiment, chaque vote compte.
J'éclate la concurrence.
Quatrième, pour l'instant, c'est Fred Weiss. Un petit peu largué quand même. 19% pour son débat c'est autour de la
si
bête clip élite. Sous-évalué, est-ce que vous voulez en parler? Deuxième, ex aequo, vraiment à égalité, 26%. Mario Bartoli, Pascal Dupraz. Mario Bartoli pour le débat sur Dembélé et sa transformation incroyable. Et Pascal Dupraz autour de la révolution des pénaltys souhaitée par Pierluigi Collina. Mais vous n'êtes pas loin du premier pour l'instant, donc avec Netflix qui veut arrêter le Tour de France et sa série sur le Tour de France. Christophe Cessieux est en tête, 29%. On verra si c'est confirmé.
Moi j'ai 30
à 10h45.
Bravo Christophe.
Fais attention, il va surveiller.
Bravo Christophe, t'as gagné.
Non, c'est pas fini. Vous pouvez encore aller voter. On fait un point sur ce qui se passe à Saalbach en Autriche, les championnats du monde de ski avec toujours cette première médaille attendue pour les Français. Ça sera pas pour aujourd'hui a priori. Le slalom, la première manche, Léna Marjac et Bastoun en direct.
Oui, pas pour Chiara Pogno, ça c'est sûr malheureusement Bastoun, parce que eh bien une faute et la Française est sortie, elle n'a pas pu terminer cette première manche, mais on le sait, Chiara Pogno aussi, en plus de se battre avec la piste, elle se bat aussi avec ce dos qui lui fait mal, elle va se faire opérer cet été, mais aujourd'hui ça a été dur pour Chiara.
Ouais, sa mise en action était plutôt bonne, il y a longtemps que j'avais pas vu skier comme ça, malheureusement c'est encore une faute sur ce pied droit où elle sent pas sa jambe. Forcément, donc quand tu peux pas appuyer sur une piste aussi délicate, difficile, elle a tenté le coup pour devenir ici, mais maintenant il faudra penser à l'opération parce qu'elle peut plus continuer à skier comme ça c'est sûr.
Et donc Chiara Pogno sortie dans cette première manche. Marie Lamure, elle est toujours 13e provisoire avec 3 secondes de retard sur la Suissesse Camille Ras qui est en tête. Derrière on retrouve une Autrichienne, Katharina Linsberger, et Michaela Schifrinelle est toujours 3e provisoire de cette première manche. On a une dernière Française qui va s'élancer un peu plus tard, Dossard 37, Marion Chevrier.
Merci Léna Marjac, à tout à l'heure, et merci à Bastoun pour les commentaires de ces championnats du monde de ski. La punchline GG signée aujourd'hui Victor Wembanyama, entretien au San Antonio Express cette semaine. Il va découvrir un événement, le All-Star Game dimanche. Et écoutez, il n'est pas là pour faire de la figuration.
RMC, la punchline GG.
Si ça tourne comme les derniers matchs, c'est-à-dire sans intensité, j'espère pouvoir apporter du contraste en étant le gars qui va amener de la folie, qui va se jeter sur tous les ballons, qui va faire les efforts sur chaque action.
Victor Wembanyama donc qui est prêt à entrer dans l'arène, ça sera dimanche dans ce All-Star Game. La question qu'on vous pose les GG, est-ce que le All-Star Game c'est encore du sport ? Oui ou non Christophe Cessieux ?
Non.
Pascal Dupraz ?
Oui.
Marion Bartoli ?
Non.
Fred Weiss ?
Non.
Avant de vous entendre plus longuement, on accueille celui qui suit le basket pour RMC, Arnaud Valadon. Salut Arnaud.
Salut les GG.
Salut Arnaud.
Salut Arnaud. Salut Arnaud.
Et oui, c'est un événement, bien sûr, nous on en parle, un événement aux États-Unis, mais qui cherche à se renouveler quand même pour attirer encore. Est-ce que tu peux nous expliquer, Arnaud, à quoi va ressembler cette nouvelle formule ce dimanche ?
Alors fini donc cette formule classique, joueur de la conférence Est qui affronte les joueurs de la conférence Ouest pour doper un match qui a essuyé de nombreuses critiques en raison du manque d'engagement des joueurs ainsi que des audiences télé déclinantes. 5 millions de téléspectateurs sur le câble l'an passé. La NBA a donc décidé de casser ce modèle et de faire un tournoi avec 4 équipes de 8 joueurs. 3 équipes sont issues de la sélection classique du All-Star Game, hein, les 12 joueurs de l'Est et les 12 joueurs de l'Ouest. Mais on va mélanger tout ça, on met des coachs de prestige comme Shaquille O'Neal ou Charles Barkley. Cela donne donc Wembanyama qui va jouer avec Nikola Jokic ou encore Shai Gilgeous-Alexander. LeBron James sera lui avec Kevin Durant ou Stephen Curry. La quatrième équipe est celle qui a gagné un tournoi la nuit dernière entre les rookies et les deuxièmes années. Le format pour dimanche, demi-finale, finale. Et pour gagner, la règle est simple, pas question de faire un match complet, hein, 4 cartons de 12 minutes. C'est la première équipe qui arrive à 40 points qui emporte le match. Pas de limite de temps. Et enfin, pour motiver les joueurs, il y a la prime à l'intéressement puisque chaque basketteur de l'équipe vainqueur du tournoi recevra 125 000 $.
Ah oui, quand même, c'est pas mal. C'est une bonne petite prime. Merci Arnaud, tu restes avec nous. Alors cette question, est-ce que le All-Star Game c'est encore du sport ? Pascal, tu es le seul à avoir répondu oui.
Oui. Oui, je suis surpris que mes deux amis anciens illustres sportifs répondent que ce n'est pas du sport. C'est du sport show, c'est un show bien entendu, mais ça reste du sport. Jusqu'à preuve du contraire, ils vont pas être en costume, tous ces joueurs, les meilleurs des deux
franchement, conférences. Franchement, ils pourraient, il y aurait pas de différence.
Ils vont avoir, dès le vendredi, bah, ils avaient des concours d'adresse, des dunks, des concours à 3 points, c'est pas trop mal si t'es pas bon sportif, si t'es pas entraîné. Il m'étonnerait que ça permettre à 5 millions de téléspectateurs américains de les suivre. Et puis, ils vont faire deux matchs, demi-finale et une finale, pour donner le vainqueur. Tout ceci en marquant le plus vite possible 40 points. Donc, normalement, c'est pour juguler le manque d'intensité qu'ils ont constaté les dernières saisons. Moi, j'ai juste envie de poser une question à mes deux amis sportifs, mais aussi à Christophe. Moi, je me précipitais pour regarder Marion Bartoli, y compris si elle jouait un tournoi exhib.
Non, non, ne mens pas,
ça me plaisait de la voir. Mais si, Marion, mais ça me plaisait de le voir. Comme ça me plairait de voir encore Fred dunker, parce que je suis sûr qu'il est encore capable, et ça me plairait de regarder Christophe faire du sport, du ping-pong, dans sa maison en Normandie. Ça me plairait aussi. C'est du sport. Le sport, c'est que des records. Non, c'est du sport. C'est du sport. C'est un show, mais c'est du sport. À vous, messieurs.
Non, mais c'est de la compétition. C'est quand t'as des méga stars comme ça, t'as envie de les voir s'arracher pour aller chercher un titre NBA, pour aller chercher un titre olympique, pas pour faire mumuse avec deux équipes qui sont fabriquées de manière artificielle. Tu vois pourquoi tu mets les mecs à l'est, tu mets les mecs à l'ouest. C'est comme si en France tu faisais une équipe de gens du sud et une équipe de gens du Nord, ça.
Alors,
tennis, ça existe, moi, l'Europe contre le monde. Tu m'arrêtes, Marion, hein, si
ouais, c'est. Ouais, alors là, tu soumets une bonne idée. Moi, je pense que ça pourrait être très sympa d'organiser en NBA un match entre les stars américaines de la NBA et les stars européennes, puisqu'on nous dit qu'il y a de plus en plus de stars européennes et notamment de joueurs français. Alors, je crois que ça reste quand même du 70-30 en termes de pourcentage, donc 70% d'Américains et 30% d'Européens. Mais je pense que pour titiller l'orgueil américain et les faire vraiment jouer ce match avec un peu plus de hargne, un peu plus de volonté, ça pourrait être une idée. Je sais qu'ils ont.
Alors, la NBA l'a prévu déjà dans ce tournoi. Une équipe qui s'appelle le Global Star, et c'est dans ces Global Stars il y a des Européens, enfin il y a tout sauf les Américains. Les États-Unis. Donc, ça veut dire que, à mon avis, l'évolution, ça sera, on aura effectivement deux équipes, une du reste du monde contre les États-Unis. Il n'y aura pas l'Europe, mais il y aura le reste du monde.
Et donc, ça sera plus du sport.
Et ça deviendra du sport parce qu'il y aura un enjeu. Et Pascal, je suis désolé de te dire ça. Et j'adore le All-Star Game, mais je vais le regarder. Et il y a effectivement des actions spectaculaires. Il y a des dunks incroyables. Il y a de tout. C'est vrai. Sauf qu'il n'y a pas d'enjeu sportif. Moi, quand un match se termine à 211, à 186.
C'est qu'il n'y a pas de défense.
Ça ne ressemble pas.
Oui, mais ça, c'est le puriste qui parle.
Je trouve que ton exemple de match d'exhibition, c'est exactement ça.
Alors, oui, le sport, y a pour vous, ce n'est sympa. Que de la compétition.
C'est que de la compétition.
Donc, j'ai appris quelque chose.
Pour moi.
Le sport n'est que de la compétition.
Pour moi, Pascal, le sport n'est que de la compétition. Oui,
Pascal, les sportifs. Marion. Les sportifs apprécieront. Le sport, c'est pas que de la compétition.
Les sportifs font de la compétition.
Je suis désolé, par rapport à la sémantique et à la question qui nous est posée, c'est du sport.
Marion Bartoli.
Alors, là où je rejoins mes collègues, c'est qu'effectivement, pour moi, en fait, là, le problème, c'est qu'ils essayent de changer les formats à l'infini pour continuer à attirer les téléspectateurs. Et force est de constater que ça ne se vend pas. Comme l'a dit Fred, là, les scores complètement grotesques avec des 211, 186, c'est comme si au foot, tu jouais sans gardien et que ça faisait 20-18 à la fin. Ça n'a plus aucun sens. Donc, faire, au contraire, un petit peu titiller l'ego des Américains et faire genre les États-Unis contre versus le reste du monde ou versus les meilleurs joueurs européens, là, je pense que ça aurait plus d'intérêt parce qu'on se dirait, bah voilà, est-ce que Wembanyama au taquet il va être capable d'aller marquer des points devant LeBron James? Est-ce que Doncic, Jokic et tous les autres joueurs européens qui sont des très gros joueurs à NBA seraient capables d'aller taper les Américains? Je pense que ça intéresserait plus de personnes. Même nous, Européens, du coup, je pense qu'on serait quand même un tout petit peu plus intéressés parce que là, c'est score fleuve avec, effectivement, c'est du spectacle. Alors oui, de toute façon, les Américains sont très forts dans le spectacle et on sait aussi qu'ils utilisent le sport comme un spectacle. Là, je te rejoins, Pascal. Bien sûr que eux, ils n'ont pas la même sémantique que nous. Le sport n'est pas uniquement que du sport avec un résultat à la fin, une coupe, etc. Pour eux, ça reste un show et il faut que ce show soit développé. The show must go on.
Oui, mais c'est Mario, vraiment, un show vraiment avec l'esprit américain. Un objectif du résultat à
mais
la fin,
là, le problème. Mais exactement. Mais là, le problème, c'est que c'est devenu trop du n'importe quoi. Et quand c'est devenu trop du n'importe quoi, plus personne ne s'y intéresse. Et les audiences sont en berne depuis plus de 20 ans. Ça ne fait que baisser. Je lisais les articles de presse sur les années précédentes. La presse américaine avait titré, c'était un sketch. Voilà. Donc, c'est en train de perdre de sa valeur de manière très, très importante. Et ce n'est plus non plus des performances vraiment, vraiment élevées parce que les joueurs pensent qu'à une seule chose, c'est pas se blesser parce que la saison régulière est extrêmement longue. Et donc, ils y vont complètement en dilettante. Donc, il n'y a plus aucun effort défensif, il n'y a plus rien. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à des scores qui n'ont plus aucun sens. Donc, il faut arriver à redonner du sens pour moi, cet événement qui était quand même un événement majeur à un moment donné. Et pour ça, il faut en changer les règles.
Mais justement, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec cette opération un petit peu différente pour prouver d'autres choses. En fait, il faut se rappeler, c'est qu'à l'époque, il y avait vraiment l'Est et l'Ouest. Les joueurs ne jouaient pas beaucoup, donc les joueurs de l'Est détestaient les joueurs de l'Ouest et les joueurs de l'Ouest détestaient les joueurs de l'Est. Donc il y avait une vraie rivalité et c'était vraiment du sport. Mais moi, cette déclaration de Victor, moi je l'adore. J'espère que d'autres joueurs auront ce type de déclaration et seront plus motivés.
Il y a que les rookies qui ont envie ceux qui l'ont jamais
Oui, mais moi j'aimerais justement que ça soit un vrai plaisir de gagner ce match. Quand on propose 125 000 dollars, c'est énorme comme salaire. Sauf que.
Ouais, mais pour eux, c'est rien.
C'est pas ça la motivation. La motivation, on doit la trouver d'une autre manière. Et je pense qu'il y a moyen de le faire. Ouais. Quand il y a les meilleurs joueurs du monde qui s'affrontent, c'est toujours merveilleux.
Moi, ça me fait le All-Star Game, ça me fait penser au spectacle que j'allais voir quand j'étais petit. Les Harlem Globetrotters qui passaient dans les salles.
C'était génial.
Mais c'était du cirque. Mais c'était top. Mais on se régalait à avoir ce genre de truc. Mais voilà, c'est pas une compétition, c'est du sport, puisque Monsieur Duprat veut qu'on en dise, c'est du sport, non, mais ça n'a pas l'intérêt d'une compétition.
Les amis, on va bousculer le programme, figurez-vous, parce qu'il y a une énorme information qui vient de tomber, qui concerne le tennis, Marion. Donc j'aimerais avoir ta première réaction d'abord concernant Yannick Sinner, le numéro 1 mondial. Vous savez qu'il avait été pris dans une affaire de dopage. Il va être suspendu jusqu'au 4 mai après un accord avec l'AMA. Voilà l'information qui vient de tomber. Marion, une petite réaction à chaud et puis on en reparlera à 11h30 dans les grandes gueules du sport.
Bah une réaction à chaud, écoute, normalement on prévoyait entre 1 et 2 ans, là il va rentrer aucun grand chelem. Il va rater juste Indian Wells, Miami et Monte Carlo et symbolique. Même pas Madrid, je crois, parce qu'il faut. Voilà,
c'est donc il s'en sort bien.
C'est arrangement
totalement symbolique.
Ok, très bien.
L'arrangement entre.
Je sais pas, j'ai pas lu.
Tu vas avoir le temps dans l'audience.
J'ai pas lu, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que de manière factuelle, il ne ratera aucun grand chelem.
Très bien. Donc suspendu jusqu'au 4 mai.
Petit arrangement.
Ça veut dire qu'il était dopé. L'information du jour. On en reparle dans 3 quarts d'heure. Vous restez avec nous dans un instant. Les GG contre-attaque. Qui de Christophe Cessieux, de Marion Bartoli, de Pascal Duprat, de Fred Weiss vous a convaincu? Eh bien, la réponse dans un instant. Restez avec nous sur RMC.
Ne ratez rien du foot sur RMC.
Ce soir à 21h05, match de la 22e journée de Ligue 1, Toulouse FC, Paris Saint-Germain.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h47, vous écoutez les grandes gueules du sport. Marion Bartoli, Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Fred Weiss. Et dans un instant, on va parler du 15 de France, les GG qui passent la seconde et qui se demandent si on est trop gentil avec les Bleus après la défaite contre l'Angleterre. Et ils vont être en mode préparation à partir de demain contre l'Italie. Eh bien, on profite de cette petite pause pour se poser cette question. Mais d'abord, à 10h45, vous le savez, c'est l'heure pour les GG de prendre les commandes de l'émission.
RMC. Les GG contre-attaque.
Les grandes gueules du sport qui vous ont proposé un débat, et c'est vous qui avez choisi votre débat préféré. Dans un instant, je vais vous donner le résultat. Si je vous le donne maintenant, quatrième et dernier, mais tu t'es bien battu, Fred Weiss, 19% pour ton débat autour du championnat de France de basket. Sous-évalué, c'est pas mal.
Bien, ça monte petit à petit. Le basket va passer de quatrième peut-être à troisième
sport. Dans 2-3 ans, on est troisième. Hein.
Ouais. Troisième justement des GG contre-attaque. C'est Marion Bartoli, 24% pour le débat autour de Dembélé, qui s'est transformé véritablement. Voilà. Numéro 2 avec son débat autour de la révolution des pénaltys proposée par Pierluigi Collina. Pascal Duprat, 25%.
Médaille d'argent.
Et le grand vainqueur qui a grignoté encore, qui a grappillé quelques points, c'est Christophe Cessieux. Netflix qui veut arrêter sa série sur le Tour de France. 32%. Bravo Christophe, juste avant de t'entendre Christophe. On va aller vers une autre de tes passions, le ski, pour faire le point avec Léna Marjac et Bastoun sur la première manche du slalom dames à Salbar, lors des championnats du monde de ski.
Ouais, la bonne nouvelle, c'est qu'on aura deux Françaises donc en seconde manche tout à l'heure, parce que Marion Chevrier, avec son dossard 37, a réussi à rentrer. Elle est 16e donc de cette première manche, et juste devant on retrouve Marie Lamure, 14e place. Malheureusement, hein, c'est pas passé, on en parlait tout à l'heure pour Chiara Pogno qui a chuté, mais Bastoun, voilà, deux Françaises sur les trois qui étaient au départ, elles seront toutes les deux en seconde manche tout à l'heure.
Oui, en tout cas sur une piste pas facile, hein, on a vu, c'est avec leur dossard, c'est les deux seules filles quasiment à rentrer vraiment en partant de plus loin. Donc Marion Chevrier avec le 37 qui vient 16e, et puis Marie Lamure avec le 21 qui vient 14e. Donc voilà, s'il y a beaucoup d'écart entre avec la première, mais elles sont à une seconde et demie de la cinquième. Donc c'est des courses aussi à leur niveau, hein, ces deux jeunes filles qui arrivent sur le circuit international, qui ont besoin aussi de ces points de repère sur des grands événements. Et aujourd'hui, ben, elles n'ont pas déskié par rapport à l'état de la piste. Il y a plutôt eu des bonnes choses. Il y a une seconde manche, donc à elle de jouer et de bien finir le travail.
Et donc le trio tête n'a pas bougé. La Suissesse Camille Rast est toujours en tête devant Katharina Linsberger, l'Autrichienne, et Mika Ila Shiffrin, l'Américaine, et troisième. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 13h15, hein, pour suivre cette deuxième manche, donc avec deux Françaises, Marie Lamure et Marion Chevrier. Et Christophe, tout à l'heure t'en parlais, il fait beau, le temps est parfait. Bah, y en a un qui va aller skier dans quelques instants, il a presque mis les chaussures aux pieds. Oh. C'est Bastoun, évidemment. Oh,
il va nous faire râler, il va nous faire bisquer. Mais qu'il fasse gaffe. Enfin, parce qu'il est, tu sais qu'il est un peu fragile maintenant.
Qui nous ramène une médaille.
Oui, il tombe maintenant. Hein. Il se casse les os et tout à son âge. C'est pas sérieux. Bastoun.
Non, mais il va nous ramener la médaille.
Allez-y, faites-vous plaisir.
À tout à l'heure, Léna. À tout à l'heure, Bastoun. On suit évidemment ces championnats du monde en direct et on sera là pour la deuxième manche du slalom dames. Merci beaucoup. Christophe, tu as donc remporté ces GG contre-attaque.
Ouais, bon, je suis un peu tristouille quand même. Même si j'ai gagné, je suis tristouille parce que, comme beaucoup de passionnés de cyclistes, de Tour de France, eh bien, j'ai appris que la série Netflix consacrée à la grande boucle allait sans doute s'arrêter à la fin de la troisième saison, qui sera diffusée au mois de juin. Les signaux qui ont été envoyés depuis quelques mois sont vraiment tous négatifs. On en parlait notamment avec Marc Madiot. D'habitude, dans début de saison, il voit les équipes de tournage arriver, filmer déjà avant le Tour de France. Or là, ils n'ont pas de nouvelles de la production. Et tout ça est évidemment dommage pour le Tour en particulier, le cyclisme en général, qui, grâce à cette série, avait réussi à toucher un public nouveau qui n'était pas forcément au fait des choses du vélo, mais par les intrigues et les rivalités qui étaient mises en exergue dans la série, s'était intéressé au vélo, un public plus jeune, hein, parce qu'on dit que le public du vélo est souvent un peu âgé. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme il voulait. Il y a eu une première saison qui a très bien marché, la deuxième un peu moins, et la troisième va être diffusée, mais la troisième, vous savez, elle va montrer l'archi-domination de Pogacar l'été dernier sur le Tour, et on le sait, pour bien fonctionner, ce genre de série a besoin de personnages renouvelés, de suspense intégral, de relance, parce que c'est comme une série de fiction, en fait. Hein, il faut les scénarios sont...
Il faut le méchant, le gentil.
Voilà, il faut le méchant, le gentil. Il faut que les mecs s'insultent un peu ou qu'ils se détestent. Mm. Et ils n'ont pas réussi à trouver ça. À la différence, par exemple, de la Formule 1, où on avait vu la haine pendant quelques années entre Verstappen et ses adversaires. C'est peut-être dû aussi au manque de charisme de Vingegaard, le vainqueur danois. qui manque un peu d'épaisseur et qui c'est pas le méchant, mais c'est pas,
hein,
c'est pas le gentil non plus. Non mais c'est je l'aime bien, j'adore le coureur. Franchement, ce qu'il a fait l'été dernier, Pascal, chapeau bas, parce qu'il était quand même à l'article de la mort. Mais je veux dire, pour le grand public, c'est pas le mec le plus bankable. T'as pas envie de t'enthousiasmer pour ce garçon. Et je pense que c'était pas un très bon client non plus pour la série. Malgré tout, bah voilà, on va pas avoir on va plus avoir cette série parce que il y avait aussi les mordus de vélo, et notamment en France, qui n'ont pas complètement adhéré parce que les scénarios étaient un peu trop identiques, les épisodes se ressemblaient, trop scénarisés, donc ça n'a pas réussi à fonctionner. Je trouve ça dommage parce que malgré ses défauts, cette série montrait quand même des choses qu'on n'avait jamais vues dans le vélo, en rentrant à l'intérieur des bus, en voyant la préparation des mecs, en les voyant à l'hôtel le soir, et j'ai du mal à comprendre, je sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment du copier-coller de ce qui s'est passé avec Drive to Survive. Alors peut-être que Marion pourra m'en parler, mais ça fait 7 saisons que la série marche sur la Formule 1, et là sur le vélo ça s'arrête au bout de 3 saisons, alors qu'il n'y a pas de grosse différence.
Peut-être, c'est les mêmes ficelles.
Peut-être les, ouais, c'est exactement les mêmes ficelles. Peut-être que les personnages sont plus
divisent plus peut-être.
Est-ce que tu penses, Christophe, je te pose une question, t'es plus à même d'y répondre que nous. Est-ce que les suspicions de dopage, ça a pu jouer ou non?
Non, parce qu'ils, alors dans la série, ils n'en parlent quasiment pas. Hein. Ouais, dans les deux premières saisons, c'est un sujet qui n'est pas évoqué ou quasiment pas. Mais voilà. Bon, okay. En plus, ça a un coût parce que c'est 50 000 euros que touchait chaque équipe participante de par la production. Mais voilà, ils les auront plus les sous. Donc,
vous êtes tristouille comme Christophe.
Oui,
Pascal.
Oui, c'était bien, les deux premières saisons, c'était bien, franchement. Ouais. Ça montrait le vélo sous un autre angle, celui qu'on soupçonne lorsqu'on est dans le sport professionnel. Mais malgré tout, on voyait pas trop les coureurs dans le bus, ces rivalités, l'entraînement aussi, qui a une part importante dans le sport professionnel. C'est dommage, parce que c'était sympa.
Mais est-ce qu'on n'arrive pas un peu au bout de tout ce système? Parce qu'il y a eu beaucoup de... Tous les sports s'y sont mis petit à petit avec à l'intérieur des sports. C'est arrivé. En fait, c'est aussi, Marion, il y a une série...
Exactement, j'allais y venir.
Ouais.
J'allais y venir, ça n'a pas marché pour le tennis non plus, alors que c'était exactement la même équipe de production qui s'était occupée de Drive to Survive et qui faisait la série qui s'appelait Breakpoint. Ça n'a pas du tout fonctionné. Alors les leviers dans le tennis, ceux du vélo, je les connais un tout petit peu moins, mais les leviers dans le tennis utilisés n'ont pas fonctionné parce qu'en fait ils ont essayé de créer une espèce de télé-réalité qui n'intéresse pas les gens qui suivent le tennis.
Ce qu'ils
veulent voir, c'est vraiment comment les joueurs s'entraînent, c'est l'intensité en dehors des tournois du Grand Chelem, c'est ce que tu fais quand t'es à la maison, c'est comment tu vis un match de l'intérieur, c'est avoir une caméra éventuellement dans la box, et ça, comme c'était pas autorisé ou ça n'a pas été fait, en fait on suivait un couple de joueurs de tennis qui sont en couple ensemble et comment ils vivent au quotidien. Mais ça, la télé-réalité, tu peux en manger d'une autre façon. Donc en fait, ce qui intéressait vraiment les gens, ils ne sont pas arrivés à créer ce contenu-là. Et du coup,
ils ne veulent pas parler qu'aux fans de sport, ils veulent parler à tout le monde, comme le disait Christophe.
Mais bon, c'est si pour tu ça leur qu'ils essayent
si
de.
Oui, mais ça n'a pas fonctionné.
Si les sports ne s'ouvrent pas assez, de toute manière, c'est voué à l'échec.
Alors, vous restez avec nous parce que les GG vont revenir tout de suite sur RMC. On va revenir sur l'actualité de la matinée. Là, on a appris il y a quelques minutes que le numéro 1 mondial de tennis, Yannick Sinner, était suspendu jusqu'au 4 mai. Après un accord avec l'AMA, on parlait d'un ou deux ans de suspension. Ça ne sera finalement que jusqu'au 4 mai. Il ne ratera pas de grand chelem. Est-ce qu'on se moque de nous? On se pose la question dans un instant sur RMC. Vous restez avec nous.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.